qu'on reçoit ce soir, c'est pas celui de Code Lupin et de tous les romans à succès, les best-sellers, comme on dit dans un mauvais français. C'est le géographe qui a co-dirigé Nos lieux communs, une géographie du monde contemporain, publiée chez Fayard. Mais oui, parce que vous êtes de formation et de vocation et de passion, je crois, géographe, hein.
Oui, c'est mon premier métier, puisque j'ai suivi des études de géographie à l'université de Rouen, et puis après j'ai été professeur à l'université pendant 25 ans. Ouais.
Vous aviez un atlas ou une map monde dans votre chambre d'enfant ?
Oui, bah ouais, à partir d'une génération, on avait les atlas, donc les grands atlas, je crois qu'il y en avait un dans presque toutes les maisons, en fait, et je rêvais, effectivement, en feuilletant ces atlas.
Voilà. Le profil, votre profil idéal, Michel Bussy par Gaël Legras, on vous retrouve après.
Michel Bussy, selon vous, la géographie est une discipline carrefour, un éloge de la complexité. Les lieux et leur évolution disent beaucoup de nos sociétés. Pour comprendre ce qu'ils ont à nous enseigner, vous avez le profil idéal. Aujourd'hui, vous dirigez l'ouvrage intitulé « Nos lieux communs, une géographie du monde contemporain ». Dans ce livre, une centaine d'auteurs dissertent sur l'école, l'usine, le stade, l'EHPAD ou encore le quartier d'affaires et le ghetto de riches. Vous voulez nous inciter à prendre le temps de réfléchir à la signification de ce que nous observons, en d'autres termes, à poser un regard géographique sur le monde qui nous entoure. Depuis plus de 40 ans, la géographie constitue l'une de vos principales passions. Professeur à l'université de Rouen dès 1993, vous vous spécialisez dans la géographie électorale, ce qui vous vaut le rôle de consultant sur les plateaux de France 3 Haute-Normandie, comme ici, lors du premier tour de l'élection présidentielle de 1995.
En fait, il y a deux types de votes différents pour le Front National. Le premier vote, c'est ce qui se passe dans l'heure, où le Front National dépasse souvent les 20%.
Et il y a également des votes en milieu plus populaire.
Voilà, ce qu'on appelle les bastions ouvriers et industriels en crise aujourd'hui.
Romancier, le premier de vos 17 polars est publié en 2006. Aujourd'hui, vous avez vendu 12 millions de livres et vous êtes traduit dans 38 pays. La majorité des écrivains composent leurs personnages en fonction de leur psychologie. Vous, vous avez besoin de les situer, de savoir où ils habitent et où ils se déplacent au quotidien. Vous vous rendez d'ailleurs souvent sur les lieux de vos histoires, à Étretat, sur les plages du débarquement ou à Giverny.
J'aime bien écrire sur la Normandie et en Normandie parce qu'il y a un petit peu ce mélange des genres, cette modernité et puis cette tradition.
Petit, vous adoriez feuilleter les atlas. Aujourd'hui, dans le livre que vous dirigez, vous précisez « Nos lieux communs fait le pari de tous nous transformer en experts pour que la géographie serve d'abord à mieux vivre ensemble. »
C'est vous,
c'est moi, c'est moi. Bah, sauf le gars qui était avec sa petite moustache.
Ah, c'est pas le gars qui commente les élections.
Je ne connais pas lui.
Qui est cet alter ego étrange et moustachu? Le choix des lieux, le choix de nos lieux communs, c'est comme des cercles concentriques. Ça part de l'intime, le chez-soi, jusqu'à l'ailleurs. Vous l'avez voulu comme ça, comme on élargit petit à petit la focale?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense, alors c'est beaucoup d'entrées, hein. Il y a des entrées qui sont, voilà, qui peuvent être la gare, qui peuvent être les pâtes, comme on l'a dit, etc. Et ce sont des lieux qu'on connaît presque tous, donc on a tous une impression, une connaissance de ces lieux. Et puis petit à petit, on part de l'évidence qu'on croit connaître et ça se complexifie, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, j'avais pas pensé à ça, et j'avais pas pensé à ça, ah, et en fait, c'était pas comme ça avant, ah, c'est pas comme ça que ce lieu existe dans d'autres pays ou dans d'autres continents. » Et finalement, ça nous rend, j'espère, plus intelligents parce qu'on se dit finalement c'est une façon de combattre un petit peu les fausses évidences.
Parce qu'effectivement, ce n'est pas que la France, c'est mondial, hein, c'est complètement global. Alors, si on prend le pavillon dans l'intime, le rêve des Français depuis des décennies, le pavillon, c'est de la géographie, mais c'est aussi de la sociologie, parce que ça interroge cette fracture entre, d'un côté, la propriété individuelle, et puis de l'autre côté, le logement plus locatif, social, quoi. Il y a tout ça dans le pavillon.
Oui, alors la géographie, c'est toujours une science un petit peu carrefour, puisque à travers le pavillon, il va y avoir de la sociologie, il va y avoir de l'urbanisme, il va y avoir de l'histoire, il va y avoir de l'environnement, donc on va être de l'architecture, évidemment, donc on va être dans plusieurs disciplines. Mais l'avantage de la géographie, c'est que ça permet de poser un petit regard un peu global, de reposer les choses dans son ensemble. C'est-à-dire qu'un pavillon, c'est on parle aujourd'hui beaucoup des espaces périphériques, ces fameux espaces périphériques d'entre deux, voilà, France périphérique.
Vous n'aimez pas cette expression d'ailleurs, je crois.
Non, parce qu'en fait, elle n'est pas périphérique. Souvent, c'est des gens qui finalement sont très urbains, en fait, parce qu'ils travaillent en ville, parce qu'ils font leurs courses en ville, parce qu'ils leurs loisirs sont en ville. Donc généralement, ce ne sont pas réellement des ruraux, même s'ils n'habitent pas effectivement dans le centre-ville. Donc c'est l'idée que la géographie permet de resituer ça dans un contexte un petit peu global et de voir comment l'environnement, l'économie, parce qu'effectivement, souvent, le problème du pavillon, c'est une question d'emprunt. On va habiter là où, le plus loin de la ville, où on peut habiter. Mais si on pouvait habiter plus près de la ville et qu'on en avait les moyens, souvent, on s'éviterait, effectivement, de faire une heure dans les transports. Mmh. Donc, il y a effectivement toute une série d'enjeux. Et la géographie, elle arrive un petit peu au centre pour synthétiser tout ça.
Absolument. Alors, vous cassez quelques clichés, par exemple, sur les épiceries. Vous dites qu'elles n'ont pas complètement disparu, mais elles se sont transformées. Alors, elles se sont un peu communautarisées ou alors elles se sont hyper spécialisées.
Oui, c'est passionnant les épiceries, parce qu'on avait quelque chose qui était un modèle presque unique de l'épicerie de quartier. L'image qu'on a, je ne sais pas, de Pagnol ou des années 50. Et aujourd'hui, il y a autant d'épiceries, c'est presque que de classe sociale. C'est-à-dire, effectivement, il y a des épiceries communautaires, il y a des épiceries pour bobos, il y a des épiceries encore dans des villages périphériques, parce que parfois les pouvoirs publics, les mairies ont fait tout pour qu'il y ait encore. Voilà, il y a effectivement. Donc tout ça, c'est formidable. Et ce sont tous des épiceries qui pratiquement parfois vendent les mêmes choses, mais pas du tout pour les mêmes personnes.
Quasiment pas pour les mêmes raisons.
Voilà, donc, façon. Oui. Donc là, effectivement, c'est fascinant. Et en plus, il y a toutes les épiceries qu'on va trouver effectivement dans tous les autres pays fonctionnent sur d'autres modèles.
Alors, on les trouve en France, on les trouve aussi au Japon, les bains-douches. Mais on va parler des bains-douches en France avec vous et avec Michel Bussy, Anna.
Oui, exactement. On l'apprend dans votre livre. L'âge d'or des bains-douches, c'était autour des années 50. Mais depuis que les logements se sont modernisés et qu'ils sont équipés de salles de bain, eh bien, leur nombre a lentement décliné. À Lille, par exemple, le dernier a fermé en 2019 et à Lyon, il n'en reste plus qu'un. Et pourtant, ces lieux, on l'apprend, permettent aux plus démunis de conserver leur rituel d'hygiène, une vraie question de dignité. Et la seule ville aujourd'hui à faire exception, c'est celle de Paris, qui compte encore 17 bains-douches, dont un exclusivement réservé aux femmes. Il se trouve dans le 12e arrondissement. Et ces bains-douches, eh bien, c'est la possibilité pour ceux qui le souhaitent de pouvoir prendre une douche gratuitement pendant 20 minutes. Charge à eux ensuite d'apporter leur serviette et leur savon de toilette. Michel Bussy, dans les années 50, ce sont les familles modestes qui se rendaient aux bains-douches. Aujourd'hui, ce sont souvent les plus démunis, les SDF, les mal logés, les migrants travailleurs. Qu'est-ce que ce lieu, à différentes époques, dit de notre société ?
Alors, c'est toujours intéressant de voir les trajectoires des lieux qui peuvent être des lieux, à un moment donné, effectivement, plutôt attractifs, comme les bains-douches ont pu l'être, puis après, pour les classes plutôt moyennes ou pauvres, puis pour les exclus, les plus démunis. Mais personne ne dit que dans 10 ans, dans 20 ans, les bains-douches ne redeviendront pas la mode ou qu'on va les transformer en autre chose. C'est l'exemple classique du tram en ville qui a disparu, qui est revenu. Donc, c'est aussi toujours les lieux, il faut toujours les situer dans une époque, parce que le regard, on croit toujours que les lieux sont éternels, sont immuables, que ce qu'on voit à l'échelle d'une vie restera toujours. Et dès qu'on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que pas du tout. Évidemment, les bains-douches, le regard qu'on porte aujourd'hui, ils n'ont pas du tout été conçus, évidemment, à l'origine. D'ailleurs, c'était des équipements très urbains pour, effectivement, être pour plutôt les plus démunis, les SDF.
Et oui, et c'est ce qui fait de votre livre, Nos lieux communs, un livre de géographie, mais aussi d'histoire. Et alors, à propos de l'histoire et de la géographie, on dit souvent, à propos des grands écrivains français, il y a ceux qui sont plus les écrivains de la géographie, Jules Verne, et puis ceux qui sont plus les écrivains de l'histoire, Alexandre Dumas ou d'autres, Victor Hugo. Vous êtes un écrivain, vous avez démarré autour de la géographie avec Claude Lupin. C'est-à-dire que vous avez transformé votre passion avec quelque chose qui est de l'ordre du jeu de piste intellectuel autour de Maurice Leblanc, Arsène Lupin et de la Normandie, votre région natale.
Et c'est comme une géographie d'Arsène Lupin. Absolument. D'ailleurs, dans Lupin, il y a beaucoup de références géographiques. Voilà, il imagine que l'aiguille de Trotta est creuse, par exemple, et que c'est le repère d'Arsène Lupin, donc c'est une pure fantaisie géographique. Et effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a écrivains géographes, souvent on va les citer comme des écrivains aventuriers, voyageurs, des écrivains qui ont fait effectivement découvrir le monde. Et en fait, aujourd'hui, il y a moins d'espace à découvrir. On lit encore des récits de voyage, mais enfin, on n'est plus du temps de Jules Verne, etc. Donc du coup, effectivement, les écrivains géographes vont davantage explorer la psychologie, l'intime. La sociologie, l'intime, mais toujours situés dans des lieux et comment les gens habitent ce lieu.
Alors vous aimez les lieux, mais vous n'aimez pas les régionalismes. Pourquoi ? Parce que ça équivaut à vous à des nationalismes. Vous aimez votre Normandie, justement, parce qu'il n'y a pas de revendication régionale.
Alors, là-dessus, c'est un des points que je pense peuvent apporter les géographes, c'est attention aux fausses évidences. Et par exemple, qu'on va dire, les Bretons sont têtus, et les Normands taiseux ou autres. Là, on est purement dans un régionalisme qui n'existe pas. C'est-à-dire, si on commence à dire les Bretons sont têtus, mais alors ceux de Rennes, ils le sont plus que ceux de Brest. Enfin, ça n'a aucun sens en réalité. Non, puis enfin, objectivement, il y a pas. On est dans des sortes de légendes qui n'existent pas, parce que ça reviendrait, parce qu'ensuite on va dire, ouais, ceux du Havre sont différents de ceux de Rouen, etc. Donc, ce genre de choses n'existe pas en réalité. C'est une forme de culturalisme, et donc. Là, la géographie doit essayer d'étudier plus en détail. Et par exemple, effectivement, pour la Normandie, c'est pas que les Normands sont peut-être ben couillés, peut-être ben tons, etc. C'est simplement qu'en Normandie, par exemple, on n'a pas de langue régionale.
Ouais.
Donc, on a une revendication qui peut être différente. Mmh. On n'a pas de capitale évidente non plus. Voilà. Donc, on peut trouver des faits vérifiables qui peuvent expliquer pourquoi, par exemple, en Normandie, on n'a pas de revendication régionale très forte, alors que nos voisins bretons en ont plus.
Oui.
Mais on va trouver des explications historiques. C'est pas juste une question de caractère. Et on naîtrait avec ce caractère tout simplement parce qu'on naîtrait en Normandie ou en Bretagne ou en Alsace.
Michel Bussy, une dernière question. On va faire, après vous, un débat autour de l'état de la gauche française aujourd'hui. Je crois que vous avez appelé, vous êtes engagé pour le nouveau Front populaire au moment des législatives. Qu'est-ce que vous en pensez de la gauche ?
Ah,
vous avez 20 secondes.
Non, moi, ce que je note, c'est la gauche. Alors, effectivement, si on fait les comptes, aujourd'hui, la gauche, c'est à peu près, on va dire, un tiers des Français en termes électoraux. Voilà. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a en France une gauche qui ne. Enfin, c'est pas qu'elle s'est résumée, mais si on prend par exemple les associations.
Ouais.
Je suis persuadé que si on comptait les associations, je pense qu'on est à 70-80% de gens à gauche. Si on prend les communes les plus défavorisées, je pense qu'on est à 70-80% de gens militants, etc., qui s'engagent. Donc je pense que même si souvent on a une image de la gauche qui peut être, comme j'en suis, des gens qui ont l'accès aux médias, eh bien, l'essentiel de la gauche, c'est des gens qui travaillent sur le terrain et le plus souvent auprès des plus démunis dans les endroits les plus difficiles.
Et à propos des associations, alors je rappelle Nos lieux communs sous votre co-direction chez Fayard. Et le 10 octobre, votre prochain roman sort aux presses de la Cité, Les Assassins de l'Aube. Et donc, à propos du secours populaire, vous donnerez 10% de vos droits d'auteur au secours populaire.
Ah, il y en a bien besoin.
Et ben voilà. C'est dit, c'est fait. Merci et merci. Michel Bussy d'être venu sur le plateau.
Merci.